Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
C'est une véritable icône que nous recevons tout à l'heure dans un tout petit instant. Mylène de Mongeau sera avec nous. Alors pour certains, c'est Madame Pic dans Camping. Pour d'autres, eh bien, ce sera le souvenir de Fantomas. Mais elle sera ce soir aux côtés du capitaine Marlowe sur France 2. Elle nous dira tout dans un instant. Restez avec nous.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Dorfman.
Bonjour Valérie.
L'invité du jour aujourd'hui, c'est Mylène de Mongeau. Bonjour, on est ravis de vous recevoir.
C'est culte.
Comme c'est gentil.
Oh, vous êtes culte. Oh là là, moi je suis ravie.
Une icône. Quand votre filmographie fait au moins 4 pages.
Non, il ne faut pas exagérer.
Si, on l'a ici.
Si. Vous avez tourné avec Jean Marais, avec Yves Montand, avec
Roger Moore. De finesse d'abord.
Et de finesse, et oui.
De finesse, c'était le premier ?
Oh, enfin, pas. C'est mon préféré, quand même.
Ah, c'est votre
préféré. Celui que je revendique avec joie. C'est
pourquoi le... c'était dur, Jean Marais ?
Non, il était charmant, mais il était... Jean Marais, il est comme tous les personnages qui roulent pour lui. De finesse, il avait une espèce de génie. Donc, je veux dire,
et de générosité.
Quand vous êtes à côté d'un mec comme ça, vous apprenez sans arrêt. Vous faites des progrès avec des gens comme ça. Vous ne faites pas des progrès avec un très bel homme qui suit sa route. Vous n'êtes pas belle comme lui et vous n'avez pas les mêmes... centre d'intérêt, tandis qu'avec De Funès, eh ben, on a toujours besoin d'apprendre, de savoir le tempo, le rythme, machin. C'est jouissif.
C'était dans quoi, De Funès ?
On a fait 3 Fantomas.
Bah oui, Fantomas. Oui,
trois. Donc 3 Fantomas, ça fait pratiquement 3 ans de 2 mois où on est pratiquement tous les jours ensemble, on bouffe ensemble, on vit ensemble. C'est génial.
Mmh. Et donc finalement, il était drôle dans la vie, De Funès, contrairement
quand
à ce qu'on
peut dire.
Quand il
avait un petit coup dans le nez. Sinistre le matin au réveil, mais très marrant quand on bouffait ensemble.
Roger Moore,
il était mignon à l'époque. Il venait de faire Ivan Noé, je sais pas quoi. Il n'était pas encore du tout star. Il était gentil garçon. Il était tombé fou amoureux d'une Italienne pendant le tournage. Donc nous, on passait notre temps à le préserver, son histoire avec son Italienne, d'ailleurs, qu'il a épousée et qui restait 10 ou 15 ans avec lui. Ouais. Mais il était maqué avec une dame qui était son agent et qui ne prenait pas les choses...
De la même façon. Donc,
je vous préviens, je vais commander des pizzas. On est là jusqu'à 13h. On va rester jusqu'à 13h.
Non, parce qu'en plus, vous êtes une femme très engagée. Présidente d'honneur pour le droit de mourir dans la dignité.
Je ne suis pas présidente d'honneur, mais j'en fais partie d'honneur.
Oui, voilà, depuis
en
longtemps.
Fait depuis très longtemps.
Ça veut dire que vous n'avez pas peur de la mort ?
J'ai peur de la mort, comme tout le monde, mais j'apprends à la... Non, j'ai peur de... Je ne supporte pas l'idée de ne pas pouvoir choisir ma propre fin de vie si je l'ai décidée. Je pense que j'ai rien demandé. On m'a fait un spermatozoïde qui est venu arriver. Je suis là, je m'appartiens. Et je ne n'admets pas que des gens aient le droit, les droits sur mon corps. Mmh. C'est tout. Si je veux partir, je veux partir. Bien sûr, il y a le suicide. Mais c'est pas une solution. Mais je veux partir. Donc j'ai des directives dans mon porte-monnaie. Pas d'acharnement thérapeutique si je suis comme ça. Et laissez-moi foutre le camp si j'en ai envie.
Alors, en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez été aux côtés de Bernard Tapie quand il avait lancé son mouvement politique.
Je me suis vue sur Bernard, sur BFM TV, tout d'un coup, il y avait une émission à la Provence. Et j'ai vu, ah, la blonde, la dernière, qui est en train de se foutre du rouge à lèvres, je ne sais pas quoi, mais c'est, merde, c'est moi. Et ça a été une excursion très brève. Ça a duré exactement 3 semaines.
Ah oui.
Parce que mon mari, Marc Simenon, était fou amoureux de Tapie, il le trouvait absolument génial. Donc quand Tapie, avec sa femme Dominique, venait souvent à Porquerolles, parce qu'elle était amoureuse de mes mangoustes. Ah. Donc Dominique venait voir mes mangoustes. Et quand Tapie est venu en disant « Toi, il faut que tu fasses l'environnement avec moi », moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Marc m'a dit, mais si, c'est un mec extraordinaire, tu vas voir, il faut que tu le fasses et tout ça. Donc bon, j'ai dit oui, poussé par le bonhomme. J'ai commencé à recevoir des lettres d'insultes, des gens qui me disaient « Comment une fille comme vous, bien droite comme vous, vous pouvez travailler avec ce salopard qui rachète des sociétés pour 1 euro avec de l'immobilier à l'intérieur et qui fait son fric sur notre dos, vous nous dégoûtez, vous êtes vraiment dégueulasse, on vous en veut beaucoup ». Donc j'ai été terrifiant parce que tout ça je ne savais pas du tout. Et puis j'ai fait une ou deux campagnes avec lui. J'ai été stupéfiée de son charisme, de son côté flamboyant, du fait qu'il arrivait quelque part, il distribuait des cartes postales comme une star de cinéma.
Il y avait des bombes avec des cartes postales.
Et il était capable de parler 1h30 magnifiquement, sans un brin de papier, sans un truc. Il m'a stupéfié.
Et bien pourquoi vous avez arrêté au bout de 3 semaines ?
Parce que, ma chère amie, j'ai un drôle de caractère. Quand la voiture venait me chercher de Marseille le matin avec le chauffeur, et que j'étais là, et que j'étais dans cette voiture qui venait me chercher pour m'amener à la mairie de Marseille, où on roule à 200 à l'heure, où on passe tous les feux rouges et tout ça, je me suis dit, mais merde, c'est grisant. C'est grisant d'être comme ça ? C'est dégueulasse. Je suis pas faite pour ça, moi je veux pas. Donc, j'ai pris mes distances. Et après, je lui ai dit, bah maintenant, puisque je m'occupe de l'environnement, envoie-moi tes dossiers. Je vois de quoi, ce que je peux faire, parce que je suis écolo depuis Antoine Wechter. Ça remonte à loin, mais je le suis toujours. Et puis j'ai vu qu'il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien du tout. Et je me suis aperçue que c'était tapis, c'est un immense vaisseau qui avance pour lui.
Pareil.
Voilà.
Et puisqu'on est dans les souvenirs, Jean-Paul Belmondo, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et là aussi, vous avez fait pas mal de choses avec Jean-Paul Belmondo.
Oui, mais enfin, lui, c'était un copain comédien. Je ne me suis pas mouillée ça.
C'était une aventure.
On a joué, on s'est amusé, il était joyeux. Il adorait vous embrasser avec de l'ail dans la bouche pour voir si vous alliez faire la gueule ou pas. C'était un potache, C'était un blagueur potache.
Et vous l'avez revu, tapis, après, ou pas ?
Non. Il est venu me voir jouer. Donc je l'ai quitté grâce aux amandiers, grâce à la pièce de Daniel Auteuil, en lui disant écoute Bernard, je peux vraiment pas faire une campagne politique, j'ai cette pièce qui me plaît, laisse-moi m'en aller, donc j'ai pris mes distances. Et il est venu me voir jouer avec la phrase évidemment la plus conne qu'on puisse dire à un acteur, mais comment tu fais pour te souvenir de tout ça? Je dis bon d'accord, allez hop. Mais n'empêche qu'il m'a fait un coup qui a été incroyable et qui m'a encore conforté dans mon idée qu'il fallait pas toucher à ce monde-là. C'est qu'on est parti pour dîner, je sais pas où, chez Lip ou chez machin, tous ensemble. Donc Marc a pris Dominique, sa femme, et moi je suis montée avec lui. Il est parti du théâtre des Amandiers jusqu'au restaurant à 200 à l'heure en brûlant tous les feux rouges. Il m'a terrifiée. Je lui ai dit bon, ben ces gars-là, ils sont terrifiants.
C'était pas pour vous. Et vous avez bien fait de revenir au théâtre, au cinéma, à la télévision, parce que vous avez fait pas mal de choses pour la télévision. Évidemment, il y a eu Camping aussi qui a été. Qui vous a fait connaître peut-être une autre génération.
Oui, il y a des gens qui connaissent que ça. D'ailleurs, il y a des gens qui. C'est pour beau pour eux, je suis Madame Pic. Et puis c'est tout.
Oui, c'est ça.
Vous avez beau faire 70 films.
Mylène de Mongeau, donc, qu'on va retrouver dans Capitaine Marlowe sur France 2. Deux vies, c'est le titre de cet épisode réalisé toujours par José Dayan. Gilles.
On va en parler. Et avant, la question du jour, vous pouvez aller sur le site Twitter de Sud Radio. Ah, c'est une question qu'on a posée pour Mylène de Mongeau. Est-ce que vous êtes nostalgie ? Est-ce que les films de Cap et d'Épée qui n'existent plus, est-ce que les films de Cap et d'Épée vous manquent ? C'est quand même des films flamboyants, les films de...
Eh ben moi, j'adore ça. Moi, pour moi, mon plus beau rôle, c'est la Milady dans Les Trois Mousquetaires. Ouais. Et je me bats toujours pour que ça ressorte en DVD et que ça ressorte. Et les gens adorent. Moi, j'adore le film de Cap et d'Épée.
Mais c'est comme plus à la mode.
C'est pas en ce moment, mais donc ça va revenir. Il y a pas longtemps, quand j'ai tourné avec Jean-Pierre, j'ai travaillé avec Jean-Pierre au théâtre, il y a une amie qui m'a envoyé Le Bossu et Lagardère que j'avais jamais vu. Il était formidable, ces films-là. J'aime beaucoup.
Mais c'est vrai, on verra ce que,
disent nos auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio.
On passe aux zappings.
Oui ou non ?
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Aujourd'hui, Valérie, tout le monde veut être comme Mylène de Mongeau, tout le monde veut être star, et les réseaux sociaux ont amplifié la prédiction d'Andy Warhol sur le quart d'heure de célébrité. Mais il est difficile, quand vous êtes adolescent, de supporter la critique. Frances Haugen, c'est une ex-salariée de Facebook, Valérie. Oui. Elle a expliqué à la commission sénatoriale américaine que Facebook, entre l'argent et le bien-être des adolescents, ils avaient fait le choix de l'argent en toute connaissance des problèmes qu'on a sur Instagram, écoutez.
Frances Haugen formule des accusations plus graves, particulièrement à l'encontre d'Instagram, également propriété du groupe californien. Selon les documents récupérés par l'ancienne cadre, Facebook savait qu'un adolescent sur 4 souffrait d'une mauvaise estime de soi à cause de l'application.
Le pic se situe à 14 ans. C'est comme les cigarettes. Les adolescents ne savent pas s'autoréguler. Ils disent explicitement « je me sens mal quand je vais sur Instagram, mais je ne peux pas m'arrêter ».
Frances Haugen a réussi à faire mouche auprès des sénateurs.
Ce sont nos enfants les victimes. Les ados d'aujourd'hui se regardent dans le miroir et ressentent du doute, de l'insécurité. C'est Mark Zuckerberg qui devrait se regarder dans un miroir.
Et oui, c'est Mark Zuckerberg qui devrait se regarder dans un miroir. C'est compliqué pour ces adolescents d'être critiqués. Restons avec les réseaux sociaux et l'image finie. L'époque de vos photos dédicacées, Mylène. Aujourd'hui, on fait donc des selfies. Ne demandez jamais à Amanda lire un selfie. C'était chez Laurent Ruquier.
Vous racontez qu'il y a quelqu'un qui vous demande un selfie.
Et ah oui, je déteste ça.
Qu'est-ce que vous lui dites?
Une dame à l'Intermarché ou un supermarché, là, vous savez, quand vous achetez les croquettes des chats et tout, elle vient vous voir, on n'est pas maquillée ni rien. Est-ce qu'on peut faire un selfie? Je dis, ben non, vous voyez bien, madame, je suis pas maquillée, là, aujourd'hui, là, je suis moche. Et elle me fait, oh, c'est pas grave, moi aussi, je suis moche. Ben, je lui dis, oui, mais vous, vous avez l'habitude.
C'est ma voisine, Amanda, c'est rigolo, parce que la personne qui traite, une des personnes qui traite mon cancer, et fou amoureux d'elle, donc il m'a dit un jour, pendant la consultation, si un jour vous pouvez me la faire rencontrer, je serais vraiment content. Donc j'ai cherché pour lui, j'ai trouvé facilement, parce que j'ai plein de copains qui la connaissent. Je l'ai appelé, j'ai dit voilà Amanda, j'ai un médecin qui est fou amoureux de vous, est-ce que je peux vous mettre en contact tous les deux? Donc ils se sont mis en contact.
Mais
et oui, oui, la prochaine fois que je vois mon médecin, il m'a dit, ah, elle est géniale, on va se rencontrer, je vais boire un pot avec elle, donc voilà, peut-être que
peut-être
j'ai
le début d'une grande histoire d'amour, absolument. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, de plus cocasse? On vous a confondu avec quelqu'un ou
on me prend souvent pour Angélique, hein, on me demande souvent, je vous ai tellement aimé dans Angélique, dans Marquise j'en ai marre, maintenant je dis c'est super, gentil, je prends tout, j'engrange tout, Angélique, tout ça, je m'en fous.
Et devenir star, on vous en avait déjà parlé, je vais vous emmener à Cannes en mai 1957, vous rappelez?
Mes débuts.
Vous vous rappelez, vous étiez sur une chaise longue et là vous aviez...
J'étais chez James Hadley Chase, on allait tourner une manche et la belle.
Exactement, il vous demandait de ne pas avoir la grosse tête, écoutez.
Vous savez que le cinéma, c'est une chose très dangereuse. Vous savez que ça rend fou, le cinéma. Dans un an, dans deux ans, possible que vous deveniez odieuse.
Voyez non,
pas comme ça. Automatiquement. Moi, j'ai d'excellents amis qui font du cinéma, qui sont vraiment des copains. Mais dès qu'ils font des films, ce n'est pas possible. On leur demande de venir pour un tournage. Ils sont pas là.
C'est pas gentil.
Faut pas les réveiller.
Moi, je serais les copains, je serais pas contente. Non.
Mais moi, je suis pas content non plus. Mais vous, vous serez pas comme ça.
J'espère que non. Mais... enfin, on le verra.
Vous avez jamais eu la grosse tête?
J'ai dû l'avoir à un moment donné quand ça marchait tellement, tellement bien que tout le monde était à mes pieds et me demandait mon avis surtout, que je donnais d'une façon, il y a eu comme une idiote que j'étais, donc qu'est-ce que vous... J'ai eu un drame comme ça un jour entre Lazareff et le journal communiste de et l'Humanité, donc ils sont venus au studio et puis c'était Noël, donc j'avais des photos avec une très belle robe, une très belle coiffure, etc. Et j'ai fait des photos pour l'Arbre de Noël de François, hein, qui était le gros journal à l'époque. Et puis, à un moment donné, l'humain vient, il me dit, vous pourriez tenir vos mains comme ça pour fêter Noël? Je dis, bah, bien sûr. Donc, je fais ma photo avec la main comme ça. Et ça sort dans l'humain avec un Spoutnik.
C'est drôle.
Et je me suis fait engueuler par Lazareff qui dit, bon, quand on fait des photos dans François, on fait pas des photos dans l'humain quand même. Ça va complètement idiote, ma petite fille.
Ah oui, donc vous étiez bien fait à voir.
Et pour finir, le dernier son, vous avez vu que j'ai travaillé mon zapping pour vous. Ouais. On a beaucoup parlé du dernier James Bond, évidemment, mais il faut pas oublier un autre héros bien français, OSS 117 de Jean Bruce, qui est sorti les livres en 49 alors que James Bond c'est seulement en 53, Cocorico, et puis réalisé par le réalisateur de Fantomas.
Oui, d'ailleurs il y a une petite histoire là-dessus, c'est que c'était les droits avaient été c'était Jean-Marie qui avait lu OSS et qui avait dit à Une Belle, achète-moi les droits, je veux absolument faire le film. Ah, donc oui. Une Belle a acheté les droits et il s'est dit Jean-Marie il est trop cher. Et il est allé chercher le gentil Frédéric Stafford, représentant en pharmacie, un bout de bois ambulant, très beau mec, mais alors, un bout de bois.
Rien.
De toute façon, il n'a pas fait d'autres films qu'OSS 117. Ouais. Valérie, donc dans le rôle d'Hubert Bonisseur de la Batte, Frédéric Stafford, et dans le rôle d'Anne-Maria Sulza, Mylène de Montjoie. Alors, elle vient juste de se réveiller parce qu'elle a été un petit peu droguée.
Hubert? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais que se passe-t-il? Je me suis trouvée mal?
Ne vous inquiétez pas, tout va très bien.
Mais enfin, je ne comprends pas. Tout à l'heure, vous m'avez raccompagnée jusqu'à ma porte.
Non, Anna Maria. Non, c'était hier soir.
Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps?
Je n'en sais rien. Mais si je vous disais ce que vous vouliez faire, Ça y est, la première surprise.
Ah, c'était pas à l'époque Me Too.
Me demande qui le comédien qui l'a doublé.
Oui, ah, c'était pas sa vraie voix.
Bah, non, bah, non, il était un Australien, ouais. Ou je sais pas quoi. Il baragouinait à peine le français était doublé. D'ailleurs, on sent que l'acteur qui double est un vrai acteur
à voix, un peu comme à l'époque.
Voilà. Hein, mais... Je rappelle quand même que vous avez publié deux livres de mémoire, hein, Tiroir secret, et puis Mylène de Mongeau, Mémoire de cinéma, une vie et des films.
Je me demande d'ailleurs si j'ai parlé de tapis dedans ou pas. Je m'en souviens pas.
Bah, c'était en 2011, donc peut-être que vous n'en aviez pas parlé. Bah, voilà, ça aura l'occasion d'en parler.
Et juste pour finir sur ce qu'on vient d'entendre, vous étiez un peu une James Bond girl. Est-ce que vous accompagniez l'époque Me Too, parce que vous avez quand même joué un peu comme Brigitte Bardot, un peu les jeunes
comme ça. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire l'époque Me Too. Ça veut dire d'aller chercher des mecs sur Internet,
l'époque Me Too, c'est la femme qui est un peu maltraitée par les hommes.
Moi, je sors quand même des années 1957, quand je vois les films 57, 58, 59, c'est quand même la fin de la misogynie épouvantable. Mon premier film qui était écrit pour Bardot et que j'aurais jamais dû faire, mais que les gens aiment beaucoup quand même et qu'ils aiment revoir, c'est « Sois belle et tais-toi ». Ouais. On était enfin une bonne femme, pas trop moche, n'avait pas le droit d'être intelligente. Ouais. Et on n'avait jamais de beaux rôles de femmes intelligentes. Les rôles de femmes intelligentes étaient envoyés à celles qui étaient considérées comme moches. Et les femmes moches, à l'époque, c'était... Annie Girardot, Jeanne Moreau, alors que ce sont de très belles femmes.
Oui, mais qui n'étaient pas, des filles glamour comme vous l'étiez. Ça vous a pénalisé, vous, dans votre carrière?
Ah bah oui, évidemment.
Vous prenez, évidemment, toujours des rôles.
J'ai raté des tas de trucs parce qu'il fallait que ce soit simplement une jolie fille. C'était très frustrant. J'ai raté de travailler avec, comment il s'appelait? C'est que celui qui était le mari de Mélina Mercouri, qui était formidable.
Jules Dassin,
j'ai raté un film en Italie très intéressant. J'ai raté aussi, parce que là, il y avait des conflits de pouvoir. Mais j'aurais bien aimé travailler avec Black Edwards. Et il avait le rôle de la princesse. Alors, on reste dans la comédie quand même. Mais le rôle de la princesse dans La Panthère Rose. Black Edwards voulait que ce soit moi. Sauf que moi, j'avais pas de protecteur derrière les épaules. Moi, je me suis fait toute seule. Moi, j'ai jamais eu de mentor, de machin, etc. Donc, il y avait mon ami Cardinal qui avait son contrat avec Crisaldi. Crisaldi, coproduction avec l'Italie, Mylène de Mongeau, à la casse.
Oui, ça l'intéressait pas.
Donc c'est dur pour une bonne femme toute seule. Je pense que si j'avais pas été toute seule, j'aurais peut-être fait une très très belle carrière, mais faire une belle carrière, je vais pas être grossière.
Bah, vous avez...
mais j'aime bien me regarder dans la glace le matin en me disant,
je me suis faite toute seule.
Et pourtant, vous avez eu des propositions malsaines de réalisateurs ou pas?
Évidemment.
Forcément.
N'importe quelle jolie fille de l'époque, on vous sort et puis on vous dit tiens, on va déjeuner. Puis après, il y a une petite auberge qui est charmante et dit moi, le déjeuner, d'accord, mais la petite auberge t'attend. Ouais, t'es une vraie conne, tu refais. Tu n'y arriveras jamais, t'es pauvre fille.
T'auras pas le rôle aussi, on vous a sûrement fait du champagne.
Il n'y a rien de pire. Les filles qui couchent pour avoir des rôles, c'est généralement celles que le metteur en scène ne prend pas parce qu'il a couché, donc il n'a plus rien à
faire. Comment vous expliquez que vous tourniez encore, qu'on vous demande, parce que moi j'étais étonnée de... Oui, le talent, mais il y a un moment où l'âge compte aussi, certainement.
Eh bien, disons que j'ai passé difficilement peut-être le cap des 40 ans, et puis qu'après, quand vous arrivez au cap des mères, grand-mères, copines, arrière-grand-mères, machin, etc., il y a encore des rôles.
Il faut
encore des grand-mères.
Absolument.
Je sais pas, puis j'aime bien jouer, donc ça me fait plaisir. Vous savez, ça s'est pas... Je vais vous raconter José Dayan, c'est quand même rigolo.
Comment ça s'est passé? Parce que donc on vous retrouve dans Capitaine Marlowe ce soir.
Je l'ai rencontré des tas de fois. Elle me disait bonjour, de loin. Et puis un jour, j'avais fait une série à la télévision dans laquelle j'avais un rôle comme ça, mais il y avait une très belle scène. Et je regardais ma très belle scène ce soir-là à la télévision, qui était en train de passer, et je reçois un coup de téléphone de José Dayan qui dit « Je suis en train de vous regarder, vous êtes formidable, je vous aime beaucoup, je vous ferai travailler. » Et tiens, c'est rigolo comme truc, parce que c'est une façon d'ouvrir la... Et quelques mois plus tard, elle m'appelle et elle me dit « Voilà, j'ai un rôle pour vous, mais comme un rôle comme on ne vous en propose pas souvent. » Et tel que je vous vois, comme une espèce de... de s'ignorer.
C'est ça dans le film.
Oui, hein, c'est très dur, une
un
mère.
Peu, un peu comme dans
une
le
mère
chat.
Très dure.
Voilà. Ouais. Donc moi, j'étais contente en me disant bah oui, enfin, on me propose quelque chose qui sort de mes emplois
habituels, où vous êtes plutôt sympathique.
Donc j'étais très contente de faire ça avec elle. Ouais. Là, ça m'a bien plu.
Et ce soir, elle va jouer la mère de Gustave Carven.
Qui est génial. Je ne le connaissais pas. Il est génial, je l'adore. Le seul truc qu'on a eu de problème, c'est que je devais le gifler. Il est tellement grand et tellement fort que je n'arrivais même pas à le gifler. Et donc, on a transformé les gifles par une autre chose aussi brutale que vous verrez. Mais je me suis régalée.
Et vous avez des coups de canne. Vous lui donnez des coups de canne.
J'adore Corinne Maziero. Ah ouais. Je suis... Et alors, cette nana, mais elle est incroyable. Je suis arrivée sur le plateau, le premier jour, le deuxième jour de tournage, où elle était là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Elle s'est jetée à mes pieds. Elle s'est foutue par terre. Elle m'a dit, je vous aime, je vous aime, je suis trop contente de travailler avec vous. Et moi, j'ai dit la première fois de ma vie que je vois une comédienne.
Ah oui, elle était carrément par terre, à vos pieds. Oui.
À mes pieds,
à plein ventre.
Oh ben Corinne, ça va, je suis ravie aussi, je vous adore aussi. Bravo. Et je suis restée très très copine avec elle parce que c'est une fille incroyable.
Et vous continuez, oui, vous avez gardé un lien avec elle.
Bien sûr, on s'appelle régulièrement. J'adore cette femme parce que ça fait partie des acteurs. En anglais, on dit « hold your horses, baby », ça veut dire « retiens ses chevaux ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il faut retenir tellement c'est un pur sang. Si elle a tendance à aller trop loin si on la lâche. Donc il faut juste la tenir pour qu'elle soit extraordinaire. C'est quand même formidable, c'est mieux que des gens qu'il faut pousser en avant en disant « mais fais quelque chose, mon Dieu ». Alors d'ailleurs, elle est terrible pour ça, parce que elle a une scène avec quelqu'un. La personne en question, la première prise, c'est pas ça. Elle, José Dayan dit 2-3 choses en disant « rappelle-toi qu'à ce moment-là de l'histoire, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Moteur. La personne, ça rentre pas dans le cerveau. Elle dit « ok, on passe à la suivante ». Et hop, et elle cherche pas. Elle balaye.
Oui, incroyable.
Elle dit ça le fera, ça le fera pas.
Je l'aurai pas
et ça passera pas. Ouais. Et donc, c'est un rôle qui vous a changé. Effectivement, on va vous voir dans le rôle d'une mère très dure. C'est vrai que la comparaison avec Signorelle et...
Si on prend les sorcières de Salem, c'était un rôle très dur. Donc, même, il y a eu un flic de choc que j'ai fait où je jouais une mère maquerelle qui tient un bordel de petite fille très malheureuse. J'aime bien ce rôle-là. J'ai quand même un caractère fort. Je suis pas une potiche.
Dans
ce rôle, vous défendez votre terre, la terre. Oui. Les gens vont le découvrir ce soir. C'est important pour vous, la terre, la province?
Assez, pour moi, la ressource, c'est... Maintenant, je pars, je quitte Paris, je vais me ressourcer à la campagne, un mois. J'arrive, il y a les arbres. J'ai pas... Depuis que je suis à la campagne, quand j'ai quitté Porquerolles, c'est une bonne dizaine d'années, j'ai acheté à la campagne, en Mayenne, et là, je plante des arbres, des fruitiers, des pommiers. Bien sûr, je serai peut-être pas là pour les voir quand ils vont être grands et qu'ils vont donner plein de fruits, mais j'aurais planté des choses, Je crois que ça vient de mon côté ukrainien, quoi. La terre, c'est quelque chose de terriblement important.
On va découvrir ça ce soir. On rappelle qu'il y a Pascal Légitimus également, Frédéric Bell et puis Gustave de Kerven qui est absolument formidable. Il faut voir ses films. Il a une densité. Moi, j'aime beaucoup Gustave de Kerven. Puis on rappelle que Capitaine Marlowe,
c'est 6 millions.
7 millions 3.
Ah, c'est vrai.
Ouais, 7 millions de téléspectateurs à la télé. C'est mieux que le cinéma.
Et c'est bien. Et on se trompe pas avec Valérie. C'est bien ce soir, vendredi.
Absolument.
Et sur France 2.
Et vous savez que moi, je suis abonnée au 2. Le 2 est mon chiffre porte-bonheur. Et tout d'un coup, je vois que la série sort le 22 octobre sur la 2 à 21h.
Donc, à mon avis, ça va faire 10 millions.
Ça va cartonner.
ou 22 millions. Voilà. Merci beaucoup, Mylène de Montjean. On a été ravie de vous recevoir ce matin.
C'est un honneur.
Oui, très heureuse. À tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Gérard Collard et les livres.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, le prince Buster, le petit prince. Oh là là, j'ai vu qu'il y avait Michel Bussy qui sortait.
C'est ça, je l'ai du mal. Merci.
Gérard cherchait depuis tout à l'heure.
C'est le Bussy sur.
Sur le petit prince, j'ai pensé à vous en voyant ça.
Et le titre, c'est qui a tué le petit prince? Je l'avoue, c'est moi. J'en rêvais depuis des années. Je l'ai fait, ce type qui est niais, qui est neuneux, qui ne sait même pas dessiner et qui est une espèce de surplanète complètement débile. on m'a embêté pendant toute mon enfance en me faisant lire ce truc.
C'est pas politiquement correct et on n'est pas dans la majorité parce qu'en général, quand on demande à des gens quel est votre livre préféré, ils vous répondent Le Petit Prince. Mais là, je suis content
qu'il soit mort.
Ben oui, mais je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça, moi. Mais
non, moi non plus. Mais
c'était ça, parce que genre, t'es arrivé tout à l'heure en disant j'ai un coup de gueule, mais je ne me souviens plus de quoi c'est. Ben voyons, on s'est même pas concerté et on a les mêmes énervements. Donc
il y a un dieu.
Voilà. Donc qui a tué Le Petit Prince, Michel Bussy? On vous le dira pas. On rigole.
Non, on rigole.
Mais on n'aime pas Le Petit Prince.
Non, parce qu'il est gentil, lui.
Mais on n'aime pas Le Petit Prince.
Voilà.
À part ça, qu'est-ce qu'on aime?
Alors, j'ai découvert. Je ne connaissais pas deux choses qui m'a non, ça c'est le deuxième. Faut écouter le prince des libraires.
Oui. Alors le petit prince des libraires, je vais vous appeler comme ça.
Voilà, c'est le
petit prince des libraires.
Ils vont pas être déçus quand ils vont voir ma tête. Alors Marie-France Pochat, elle a écrit Christian Dior, un dessin chez Flammarion. Alors c'est une réimpression. Elle l'a apparemment, c'était paru il y a quelques années. Elle l'a recomplété et j'ai été, subjugué par ce bouquin, par le personnage. Tout le monde connaît Christian Dior, mais en fait, qui vraiment connaît Christian Dior, sa vie vraiment. Il est né à Granville et c'est toute une époque. C'est-à-dire, il naît au début du siècle, il va mourir dans les années 50 d'une crise cardiaque. C'est merveilleux. Je veux dire, ce type. Alors, c'est une famille bourgeoise. Le père est riche par les engrais. Il a une grande maison d'engrais. Alors, ils sont heureux. Ils ont une sublime maison. Vous voyez, Granville. Enfin, tout ce dont je rêve, chic, les roses, nous, on n'a pas ça. Et puis, arrive la crise de 29. Et c'est une catastrophe. Ils vont être très pauvres. Lui, il va émigrer à Paris et en Provence. Et c'est toute l'histoire de. C'est toute l'histoire de la mode, de la France. Parce qu'après 40, la guerre est finie. Ouais, et lui, il va révolutionner la mode avec son new look. C'est-à-dire que les gens n'avaient marre des trucs noirs sans tissu. Alors lui, ils vont mettre des tonnes. C'est carrément. Je sais plus. Je crois que c'est elle qui dit qu'en fin de compte, il a rien inventé. C'est qu'il a repris la mode d'avant-guerre des années 14, des années folles. Et puis il a remis du tissu et ça. Complètement chamboulé la vie. Les femmes ont vécu.
Très féminin, très élégant.
Voilà, et c'est à la fois aussi très contemporain parce que, en fait, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorties de. Il y a des. Je sais pas comment on dit ça, des rentrées. Il doit sortir des nouvelles robes tous les ans. Mmh. Il est complètement.
Épuisé.
Et il va mourir de ça. Et c'est vraiment. Allez-y, ça, c'est un roman. Mais alors, franchement, en plus, je sais pas l'objet, je l'ai pas là, mais on va vous le montrer sur le podcast. L'objet est beau, c'est 500 pages. J'ai dévoré ça. En deux nuits, c'était parti.
Alors, ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Christian Dior, un destin. C'est chez Flammarion. Et la dame, elle s'appelle Marie-France.
Marie-France.
Je devrais moins sortir le soir. Marie-France Pochat.
Voilà.
Et alors, surprise, je ne connaissais pas. Et
très jolie couverture, en tout cas. Je comprends que vous ayez été attiré.
Ah ouais, j'ai
adoré. Ça s'appelle Miss Dior.
Et c'est chez, vous l'avez d'ailleurs.
Flammarion aussi. Décidément, ils ont une.
La couverture est très belle.
Ouais. Miss Dior. C'est une photo de Cécile Bitton. Hein, donc voilà, très beau.
Miss Dior, c'est en fin de compte, c'est la sœur de Christian Dior qui s'appelle Catherine Dior. C'était la plus petite. C'était la plus petite des enfants de la famille Dior.
J'ai dit une bêtise, c'est une photo de Barbara Mullen. Pardon.
Oui, enfin.
Mais il y a des photos de Cécile Bisson dans le livre.
C'est une femme extraordinaire, c'est la Benjamine, et je la connaissais pas du tout. Et en fait, cette femme, elle a une histoire incroyable, c'est que pendant la guerre, entre 40 et 44, elle va être une résistante. Grande résistante. Elle va disparaître de la circulation parce qu'elle va, se servir de l'appartement de Dior à Paris pour faire les rendez-vous et tout. Et puis, elle va être prise par la Gestapo. L'horrible celle de la rue Lauriston avec Lafont et tout, elle va être torturée et elle va être envoyée, je crois, c'est Mauthausen. Mauthausen. Ou Ravensbrück, je ne sais plus lequel. Elle va revenir en 45.
À Ravensbrück.
Et voilà. Et elle va jamais. Vous savez, c'est la discrétion des gens courageux. C'est-à-dire qu'elle va jamais beaucoup parler de cet épisode-là. Elle va assister son frère. Alors en plus, elle a tout. C'est-à-dire que. Alors pourquoi. le parfum Miss Dior, en fait, c'était le nom, c'était son surnom à Catherine Dior. Et donc, en hommage à ce qu'elle a fait pendant la guerre, elle va lui, il va lui donner le...
Il va lui dédier ce,
voilà,
ce parfum.
Et alors, elle va vivre après lui, elle va...
Formidable.
Oui, elle va...
Mais muse, ça veut dire qu'il était très proche d'elle.
Ah oui, il est très, c'était carrément fusionnel. Elle va vivre jusqu'en, je ne savais pas, en 2008. Hein, et elle va se servir, enfin, elle va servir sa mémoire et elle va aussi être celle qui va permettre avec Dior la restauration de sa maison à Granville. Qui est... Alors, allez-y, parce que c'est une...
Ça n'a pas été racheté par Pierre Berger ?
Oui, enfin, par LVMH, je ne sais plus. Non, c'est LVMH. Hein. Ouais. Et donc, elle va contribuer à ce que ça soit restauré, vraiment. C'est une merveille, cette restauration. Si vous êtes à Granville, allez-y, c'est vraiment... Là, vous avez deux livres. Moi, j'ai passé un moment...
Oui, mais... parce que ça vous raconte à la fois l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme dans celui-ci, et puis la France, parce que
c'est toute la profondeur, parce que souvent, on dit la mode, c'est superficiel.
Enfin, ça l'est devenu. Hein,
oui, là, ça l'est devenu. Ouais. Mais là, c'est vraiment... C'est du fort. Et c'est le début, d'ailleurs, de la commercialisation de la mode, hein, avec... il en mourra, hein, c'est-à-dire que c'est Boussac, c'est tous ces gens. Et il va mourir tout d'un coup, hein, c'est-à-dire en 52, ça va être une énorme surprise.
Donc, l'auteur, c'est l'ancienne rédactrice en chef de Harper's Bazaar aux États-Unis. Et elle connaît évidemment très bien.
Si vous cherchez un cadeau de Noël, hommes et femmes, parce qu'on va dire c'est pour les femmes, mais pas du tout. Hein,
parce que c'est l'histoire. C'est vraiment une grande. C'est le dessin d'une femme. Puis il y a effectivement beaucoup de photos extrêmement documentées, des lettres de Christian Dior, des photos de l'époque.
Il y a tout. C'est vraiment. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est un bel objet. Et
Miss Dior, Justine Picardie. Donc, Justine Picardie, c'est l'auteur, c'est marrant ce nom d'ailleurs, elle est anglaise, et c'est chez Flammarion, donc bel objet à offrir, parce qu'on pense déjà au cadeau de Noël.
J'ai encore un nom un peu bizarre, ce qui est approprié. L'auteur, elle s'appelle Francine Prose. Elle a écrit, alors ça vient de paraître en poche, Peggy Guggenheim, chez Texto, et c'est le rapport parce que Peggy Guggenheim est morte, elle est morte à Venise, en Italie, et lui, il est mort en Italie aussi, à la suite d'une cure de rajeunissement, enfin c'est pas ça, il est mort d'épuisement. Il est mort d'épuisement. Et Peggy Guggenheim, c'est une vie extraordinaire. Allez-y, c'est un tout petit bouquin. C'est ces femmes. Alors, on dit qu'elle était milliardaire. Enfin, elle était héritière d'une grande fortune. Mais c'est pas le bonheur, hein, forcément.
Non.
Et elle va compenser ça en découvrant tous les grands artistes.
Oui. Calder, elle collectionne.
Ils vont pas être forcément. Quand vous lirez ça va pas être très sympa.
Elle a une vie assez difficile. Hein, elle perd sa fille.
Et elle va retraduire un peu ça avec sa fille. Sa fille aussi va avoir une vie incroyable. Mais c'est toute l'époque. Vous allez voir, c'est incroyable, du chant, tout ça. Vous allez participer, vous allez à Venise, et c'est pareil, hein, si vous avez l'occasion d'aller à Venise, allez au musée Guggenheim, parce que c'est une petite maison, hein, alors il y a des choses extraordinaires. C'est un endroit magique dans Venise.
Il se passe quelque chose dans cet endroit.
Il y a sa tombe avec ses chiens,
absolument.
Et là, vous avez trois bouquins avec deux femmes absolument extraordinaires, et puis un homme au service des femmes qui va changer le look des femmes. Moi, j'ai pas, alors franchement, je dis que je passe des bons moments en lisant, mais là j'ai passé trois bons moments incroyables.
Quand
vous lisez des trucs comme ça, et puis ça remet en valeur
des femmes incroyables. En tout cas, si on parle de Peggy
Guggenheim, je vais être un peu ringardo, nostalgique, facho, mais quand on voit ce qui se passe actuellement, ça remet une échelle de valeur au courage, au talent. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est paru chez qui?
La collection de poche Texto, c'est chez Taillandier.
C'est chez Taillandier. Bon, très bien. Bah, alors, ça nous fait trois bons livres. Qu'est-ce qu'on peut lire encore?
Je vais juste vous signaler. Alors là, on va faire dans le riche. Hein. Mmh. C'est qu'ils ont une très bonne idée chez Pléiade. Ils ont ressorti deux volumes. Ça s'appelle Frankenstein et autres romans gothiques. C'est-à-dire Dracula. Vous avez tous les romans. Bah, c'est les ancêtres de Stephen King. Hein. Souvent écrit par des. Enfin, le Frankenstein, c'est une femme. C'est assez incroyable. Allez-y, c'est un très très joli cadeau. Faut avoir de bons yeux, mais c'est un très joli cadeau de Noël. Faut se préparer parce que les gens commencent à demander.
Acheter pour Noël. Je viens de voir qu'en Quarto, dans la collection Quarto, vient de sortir un Roald Dahl.
Oui.
Roald Dahl, on le connaît avec Charlie et la chocolaterie, mais en fait, c'était un novelliste incroyable. Moi, j'avais lu certaines de ses nouvelles et je trouve que c'est une excellente idée qu'a eu la collection Quarto de ressortir des textes peut-être moins connus.
Il les avait ressortis. Moi, ça a été une de mes grosses déceptions parce que j'avais adoré ces nouvelles. C'était sorti en folio et ça n'avait pas marché du tout. Enfin, c'était une.
C'est nouvelles, contes et récits. Ouais. Ça s'appelle Contes de l'inattendu. vendu chez Quarto.
C'est pour adultes.
Oui, c'est pour adultes, justement, parce qu'on a tendance.
C'est pour adultes.
Mathilda, Charlie et la chocolaterie, c'est plutôt, on a tendance à le donner aux enfants, alors qu'il y a une écriture.
Et vous retrouvez l'humour et tout dans ces textes qui sont très, en plus, qui sont très, très bien traduits.
Oui, puis il a des descriptions. Je me souviens que j'avais lu ça à l'époque. Je trouve que c'est plutôt une très bonne initiative de Quarto.
Encore un petit. Non, vous simplement vous signaler. Ah si, il y a un chef-d'œuvre en poche que j'ai adoré, qu'on vendait depuis très très longtemps. C'est L'échiquier du mal de Dan Simmons. Ah, oui. C'est chez Pocket. Ça, alors les enfants, c'est glaçant. Stephen King à côté. C'est énorme. Ouais. C'est voilà, c'est des gens qui ont un super pouvoir, qui peuvent déterminer, enfin influencer les. Il y a un meurtre. Il y a voilà, et donc c'est l'élimination de ces gens. C'est incroyable à lire. Ça se raconte pas. Ça se vit. J'en ai encore des frissons.
C'est en collection, c'est brillantissime,
c'est un gros truc, vous allez passer un super bon moment. Si vous adorez Stephen King, si vous adorez les trucs d'horreur, et surtout si vous aimez la bonne littérature, c'est très bon.
Oui, c'est très bien écrit.
Ah oui, très très bien.
C'est super bien écrit, donc ça s'appelle L'échiquier du mal
de Dan Simmons avec deux M et c'est chez Pocket.
Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres livres.